Les enjeux internationaux, Xavier Martinet.
Oui, et jour J pour ce référendum constitutionnel aujourd'hui au Burundi, 3 ans après le début de la plus grave crise que connaît le pays depuis la fin de la guerre civile. Ce scrutin entérine la prise de contrôle du pouvoir par le président Pierre Nkurunziza et son parti, le CNDD-FDD, étape cruciale moins pour son résultat dans les urnes que pour ses suites dans la rue. Alors nous devions être au téléphone avec Nestor Bidadanoré, notre confrère journaliste et écrivain qui est aujourd'hui à Los Angeles, mais la ligne ne passe pas, ce qui n'empêche pas que nous pouvons quand même exposer les grandes lignes et les grands enjeux de ce scrutin. Ego, oui, ou Oya, non, ce sont donc la question, ou c'est plutôt la question qui est posée, approuver ou pas la réforme constitutionnelle, donner ou non au président depuis 2005, Pierre Nkurunziza, la possibilité d'exercer un pouvoir renforcé jusqu'en 2034, c'est ce que vont décider aujourd'hui les 4 800 000 électeurs burundais qui sont conviés après 3 ans de crise politique. Donc, le président Nkurunziza est en passe de réaliser son objectif. Mais l'enjeu n'est pas seulement la mainmise sur le pouvoir, c'est bien l'unité du pays, puisque d'une part, l'opposition est qualifiée de rebelle, et puis les violences quotidiennes, dont une partie attribuable au pouvoir, ont déjà tué 1 700 personnes et déplacé 400 000. Et puis surtout, cette modification constitutionnelle, c'est là tout l'enjeu, n'est pas un cas isolé dans les Grands Lacs, on l'a vu en Ouganda, Rwanda ou en ce moment en RDC, mais en tout cas au Burundi, elle touche aux équilibres du pouvoir entre Hutu et Tutsi après la guerre civile, elle fragilise en tout cas ces fameux accords d'Arusha de 2000, aujourd'hui c'est le jour J, le résultat du scrutin, je le disais, est moins incertain que ses suites. Va-t-on assister après ce renforcement autoritaire à une restauration démocratique? Ça semble assez improbable, en tout cas si le Burundi atteint aujourd'hui un point d'équilibre, c'est plutôt un équilibre de la terreur, mais c'est vrai que tout l'enjeu aujourd'hui, ça reste quand même la question de la participation, participation qui avait été très forte lors des précédents scrutins présidentiels, plus de 90%, 74% lors du dernier scrutin. Aujourd'hui, il y a eu une campagne, c'est ce qu'on expliquait la dernière fois, il y a un mois, avec Nestor Bidadanoure, une campagne assez intense pour promouvoir justement cette participation, puisque le vote n'est pas obligatoire au Burundi.
En l'absence inopinée de votre invité, cher Xavier, je vais m'essayer à votre rôle, donc je vais faire mon Xavier Martinet, avec, pour commencer, une question sur le scrutin. On dit qu'il est verrouillé dans cette campagne. Il y a quand même 26 partis politiques qui avaient été autorisés à faire campagne.
Oui, alors voilà, c'était de ça qu'il s'agissait la dernière fois avec Nestor Bidadanoure. Scrutin verrouillé, plusieurs partis politiques autorisés à faire campagne, mais une campagne de toute évidence de promotion du oui qui a commencé sous forme de campagne dite d'explication de la part du gouvernement dès la fin de l'année dernière, alors même que la campagne officielle ne devait se tenir que dans les 2 semaines précédant le scrutin, c'est-à-dire à partir du 1er mai, puisque le scrutin a lieu aujourd'hui. Et comme la participation est scrutale pour légitimer le vote, comme cette participation n'est pas obligatoire, eh bien la présidence a publié un décret tout simplement pour n'autoriser que la campagne pour le oui, sans interdire évidemment la campagne pour le non. D'autre part, c'est vrai que l'opposition elle-même a été qualifiée dès le mois de janvier de rebelle par le premier vice-président tout de même, Gaston Sindimwo, qui s'exprimait sur RFI, de telle sorte que la seule opposition à appeler aujourd'hui au boycott ou boycottage de cette campagne, eh bien c'est l'opposition en exil qui était à Paris cette semaine, on l'appelle la CNARED. Dernière chose, Jacques, sur cette campagne verrouillée, c'est vrai que l'opposition elle-même officielle, ce groupe qui s'appelle Amizero Ia Barundi et qui est au gouvernement, qui est au Parlement avec le CNDD-FDD au pouvoir, et bien 30 de ses membres ont également été emprisonnés. Il y a eu aussi une forte campagne d'intimidation envers les médias. Et puis, un fait assez symbolique, c'est la condamnation à 32 ans de prison d'un personnage qui s'appelle Germain Roukouki et qui est membre d'une ONG contre la torture. Et ça s'est passé 3 ans jour pour jour après le début de la crise. Donc, un avertissement assez clair.
Bon, alors question évidemment, Xavier, que va changer la réforme ?
Alors que va changer la réforme, c'est difficile à dire. En tout cas, on voit clairement une intention de renforcer les pouvoirs. Il y a 70 articles de cette constitution qui doivent être modifiés. En ce qui concerne le renforcement des pouvoirs présidentiels, ce sont donc des mandats qui sont étendus de 5 ans à 7 ans. Le président de Nkurunziza pourrait en faire deux encore, donc jusqu'à 2034. De la même manière, renforcement des pouvoirs présidentiels face à l'Assemblée, puisque le pouvoir législatif finalement reviendrait au président, qui devrait valider par décret dans les 30 jours toute, initiative de cette Assemblée nationale. La grande question, donc, je le disais en introduction, c'est est-ce que cette modification constitutionnelle va signifier la mort ou l'enterrement des accords d'Arusha, donc comme le disait ou comme s'en inquiétait l'opposition en exil. Un mot de ces accords d'Arusha, donc en 2000, après une longue guerre civile, qui avait imposé et institué des grands équilibres, des quotas de représentation des Hutus et Tutsis, les Hutus majoritaires dans le pays, plus de 85% de la population, et des quotas qui s'appliquaient notamment à la représentation à l'Assemblée nationale et également à l'armée. Pour la représentation à l'Assemblée nationale, c'était 60% de Hutus pour et 40% de Tutsis. Donc pour l'armée, c'était ce fameux 50-50. Alors la réforme constitutionnelle n'y touche pas directement, mais c'est vrai qu'elle autorise tout de même une modification via l'Assemblée de ces grands équilibres. Donc on peut craindre effectivement pour ces accords d'Arusha.
Voilà. Et puis, quelles conséquences sur la situation politique et sécuritaire du pays, Xavier ?
Eh bien, là encore, c'est un peu incertain. Là, ces dernières années, pendant ces 3 ans, on a vu, disons, sporadiquement des éclatements de violences graves dont on ne savait pas exactement à qui les attribuer. Mais il y a une répression quand même assez claire, notamment de la part de ces milices proches du CNDD ou alors ces milices plutôt de jeunes du CNDD-FDD qu'on appelle les Imbonera Kure. Et puis là, tout récemment, le 11 et 12 mai, il y a eu un autre grave incident assez inédit également. C'était dans la commune de Ruagarika, province de Cibitoke, c'est-à-dire au sud-ouest du Rwanda, à la frontière avec la RDC. Un événement donc grave. 26 personnes ont été tuées dans un village dans la nuit du 11 au 12 mai par des personnes identifiées comme étant en uniforme, venant peut-être de République démocratique du Congo, on ne sait pas. On n'a pas pu donc attribuer à quiconque la responsabilité de ces massacres. Toujours est-il que ça pose évidemment une question sécuritaire et certains témoignages disent que malgré la présence d'un camp de l'armée des Burundaises à côté, eh bien personne n'a bougé, même si effectivement les autorités se sont rendues sur place dès le lendemain. Et puis deuxième chose là concernant cette situation sécuritaire, c'est effectivement ces milices Imbonera Kure. Pourquoi est-ce qu'elles sont inquiétantes ? Non seulement ce sont des milices de jeunes militants violentes, mais également les leaders de ces milices sont souvent aussi les porteurs d'un discours qui criminalise au moins l'opposition et qui renvoie, disons, aux heures les plus sombres de la guerre civile avec un discours qu'on pourrait qualifier de pré-génocidaire, disons-le comme ça.
Oui, et quelques criminels donc arrêtés avec des Kalachnikov.
Oui, ça s'est passé assez récemment. Ça fait partie, disons, des opérations que le gouvernement et les autorités burundaises mettent en lumière, c'est-à-dire une opposition armée. Déjà en 2015, il y avait eu des saisies partout dans Bujumbura d'armes qui avaient été montrées à la télévision. Là encore, 8 personnes ont été arrêtées il y a quelques semaines. 2 Kalachnikov saisies, ces personnes montrées à la télévision ligotées et le matériel à côté. Sans qu'on puisse encore une fois attribuer, les autorités n'ont pas communiqué sur la nature, disons, de cette opposition.
Alors l'opposition justement, l'opposition on va dire légale, elle a une particularité, c'est qu'elle est à la fois Hutu et Tutsi.
Alors là, voilà, je pense qu'il faudrait peut-être insister là-dessus pour ceux qui s'inquiétaient d'un risque de génocide, je vais terminer là-dessus, mais c'est vrai que c'est un fait rare quand même dans cette contestation. On a une opposition qui est à la fois institutionnelle institutionnalisée, celle de l'UPRONA, qui est le parti historique indépendantiste, et cette opposition traditionnellement issue des rebelles, cette opposition Hutu, qui est mêlée et qui forme quasiment un front anti-Nkurunziza, qui ne peut pas tellement s'exprimer aujourd'hui, mais en tout cas, ceci laisse entendre qu'on n'est pas non plus dans un conflit ethnique. Il faut quand même insister là-dessus.